la pratique de l'Église consistant à prier pour les morts s'enracine bel et bien dans un texte de l'Écriture sainte. Évidemment, il faut croire par ailleurs, mais c'est un autre sujet, une autre conférence, que la Bible est bien la parole de Dieu. Quant à la fête des morts, du 2 novembre, elle a été lancée au début du XIe siècle par un saint homme qui était abbé de la prestigieuse abbaye de Cluny, en Bourgogne, pas loin de Thésée. Vous savez, il n'en reste que des ruines, puisque tout ça a été pillé à la Révolution française et après la Révolution française. Il y avait là une abbaye dont l'abbatiale était la plus grande église de l'Europe. Eh bien, il y avait un abbé, saint Odilon, qui est mort en 1048, un homme très charitable, qui avait distribué les provisions du monastère et qui avait revendu les objets de culte du monastère pour nourrir les gens affamés à l'époque. Donc, il a eu l'idée de lancer une journée de prière où les chrétiens prieraient plus spécialement pour le repos de l'âme des défunts. C'est notre journée du 2 novembre qui a été ensuite étendue à l'Église universelle. Alors, certains chrétiens ont été troublés par les travaux de l'historien Le Goff qui explique que le mot purgatoire n'existe que depuis le XIIe siècle. Et du coup, il y a des chrétiens, il y a quelque temps, qui disaient « Oh, ben alors, si c'est né seulement au XIIe siècle, on n'est pas tellement obligé d'y croire. » C'est une question de vocabulaire. C'est le substantif purgatoire, qui n'existe que depuis le XIIe ou le XIIIe siècle. On pense que c'est saint Bernard qui l'a employé pour la première fois. Mais l'adjectif purgatorius est employé depuis très longtemps. Saint Augustin parle couramment de lignis purgatorius, le feu du purgatoire, Pene purgatorie, les peines du purgatoire, loca purgatoria, les lieux du purgatoire. Donc ne vous affolez pas, hein, c'est vrai que le substantif n'a pas été employé tout de suite par l'Église, mais la réalité de peine de purgatoire existe depuis toujours. Et il est évident que, quand on réfléchit un peu, on se dit les âmes n'occupent pas vraiment un lieu, donc le purgatoire c'est plus un état qu'un lieu. Hein, dès qu'on parle de ces réalités, bon, autant lorsque nous serons ressuscités, notre corps occupera un lieu, on fera sans doute du slalom entre les étoiles. Ceux qui n'ont jamais skié comme moi, eh bien, ils se rattraperont dans l'éternité. Mais ça, on en parlera au mois de mars. Hein. Mais les âmes du purgatoire, évidemment, ne peuvent pas occuper un lieu, même si, lorsqu'elles apparaissent, elles prennent une apparence humaine. Mais c'est vrai aussi pour les anges. Nous en parlerons en parlant des anges la fois prochaine. Lorsque Saint-Michel apparaît, il est bien obligé de prendre une forme humaine et même peut-être parfois des ailes sur le dos pour donner l'impression qu'il est un ange. Hein? Alors, cette vérité a toujours été une vérité de foi, ça a toujours été un dogme, ça a toujours été une vérité à laquelle nous étions obligés de croire. Mais ce dogme a été défini solennellement au cours d'un concile, le concile de Florence en 1439, parce que l'Église a voulu prendre position contre les orthodoxes qui commençaient à nier la réalité du purgatoire. Hein, je rappelle qu'une vérité peut être vécue tranquillement par l'Église pendant des siècles. Exemple, l'Assomption de la Sainte Vierge, à laquelle les chrétiens ont toujours cru en fêtant le 15 août. Mais le 1er novembre 1950, le pape Pie XII a ressenti le besoin de transformer ce dogme en dogme solennellement proclamé devant tous les gens qui étaient là ce jour-là. Alors, donc, au Concile de Florence, il est affirmé, pour la première fois, comme vérité de foi définie solennellement, ceux qui sont morts dans l'amitié de Dieu avant d'avoir fait de dignes fruits de pénitence sont purifiés après leur mort, penis purgatoriis, par les peines du purgatoire, et bénéficient des suffrages des vivants. Je vous signale que le Concile Vatican II n'a rien dit de spécial là-dessus, il n'a fait que reprendre la foi multiséculaire, mais j'ai mis le texte dans le polycopier pour bien vous montrer que le Concile Vatican II n'avait rien chahuté de la foi séculaire de l'Église. Au chapitre 7 de la Constitution Lumen Gentium, il est écrit « Dans l'attente de la venue glorieuse du Seigneur, certains de ses disciples sont en pèlerinage sur terre, d'autres sont purifiés après leur mort, d'autres, déjà glorifiés, contemplent tel qu'il est le Dieu en trois personnes. » C'est la distinction de mon vieux catéchisme d'enfance. Il y a l'Église militante, l'Église souffrante et l'Église triomphante. Ben, vous avez de braves gens maintenant qui vont à la messe tous les dimanches et qui ne savent même pas cette distinction entre les trois parties de l'Église. Nous faisons partie de l'Église militante, le purgatoire, l'Église souffrante, l'Église du ciel, l'Église triomphante. Bon, le mot triomphante ne nous plaît guère parce que ça fait un peu triomphaliste et vous savez combien le Concile Vatican II, avec le cardinal Sumianus, a dit qu'il ne fallait pas que l'Église paraisse triomphaliste. Bon, alors les orthodoxes et les protestants ont des difficultés sur ce dogme de l'Église. Les orthodoxes admettent la validité des suffrages de l'Église pour les défunts. Les orthodoxes vivent tellement avec la liturgie qu'ils ne peuvent pas ignorer cette pratique multiséculaire de l'Église. Mais, disent-ils, ces prières ne leur n'apportent qu'un adoucissement aux âmes qui sont parties dans l'éternité, qu'un adoucissement de leur peine. Ils rejettent l'existence du purgatoire comme contraire à l'Écriture. Pour eux, les âmes des défunts, sauf celles des saints, des grands saints, attendent dans l'Hadès jusqu'à la résurrection des corps. C'est seulement à ce moment-là que les âmes seront heureuses. Tandis que les catholiques pensent que les saints, nous fêtons ça à la fête de la Toussaint, tous les saints, l'immense foule des saints qui n'est pas canonisée, est déjà dans la gloire du ciel et jouit de la contemplation de Dieu. Ils attendent la résurrection des corps pour que leur corps participe à la fête, mais leur âme est déjà plongée dans la joie éternelle, entre dans la joie de ton maître. Les protestants, malheureusement, n'y croient plus. Luther, même après sa séparation d'avec Rome, croyait encore au purgatoire, tout en rejetant la pratique des indulgences, mais à partir de la diète d'Augsbourg, en 1530, il n'y croit plus. Et Calvin, alors, n'y croit pas du tout, et il le dit explicitement dans ce grand livre, L'Institution de la religion chrétienne. Il faut crier à haute voix que le purgatoire est une fiction pernicieuse de Satan, laquelle fait un opprobre trop grand à la miséricorde de Dieu, anéantit la croix du Christ, dissipe et subvertit notre foi. Et c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens, soucieux d'écuménisme, n'ont plus trop parlé de purgatoire. Ils se sont dit, pour ne pas énerver les protestants, on ne va plus en parler. Bon, c'est évident que si l'on fait une réunion écuménique dans votre ville ou ailleurs, on ne va pas commencer par dire « prions pour les âmes du purgatoire ». Bon, il y a tellement d'autres choses qui nous réunissent et vous savez que nous avons tout à fait le droit et le devoir de tout faire pour le rapprochement entre les églises. Mais Jean-Paul II, qui travaille tellement lui aussi au rapprochement entre les églises, confère tous les voyages qu'il a fait dans ce sens-là pour rencontrer, il a même fait tomber cette inimitié terrible des Grecs contre eux, que c'est une grande victoire de la diplomatie vaticane, de la diplomatie de Jean-Paul II, ce rapprochement entre l'Église orthodoxe de Grèce et puis le Vatican, c'est une victoire extraordinaire dont on ne mesure peut-être pas encore toutes les conséquences. Jean-Paul II, toujours est-il, très soucieux de rapprochement écuménique, n'a pas hésité à mettre le grand thème de Marie dans son blason pontifical, car il sait bien qu'on ne réconcilie pas les enfants en mettant dehors la maman. Si on veut que les chrétiens se réunissent, il vaut mieux mettre la Sainte Vierge dans le cou, c'est évident. Alors, nous allons essayer de balbutier quelque chose sur le mystère du purgatoire. Vous allez me dire, mais monsieur l'abbé, vous en êtes revenu Je rappelle ce qu'il faut toujours répondre à une personne qui vous dit cela. Moi, je croirais quelque chose, je croirais à l'au-delà quand quelqu'un en sera revenu. Il faut sans cesse dire, mais madame, voilà une excellente question, monsieur, voilà une excellente question, j'y crois parce que quelqu'un en est revenu. C'est l'originalité de la foi chrétienne dans l'au-delà.